Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi est-ce seulement ce 21e siècle que se pose la problématique de l'avènement d'un troisième âge de l'émancipation alors que les événements de 1968 ont créé la rupture et donné le signal d'un changement d'époque? Comment interpréter mai 68 ? Que relève le mot « révolution » ? Cette année, Pierre-Auzan Vallon, titulaire de la chaire « Histoire moderne et contemporaine du politique » au Collège de France, propose de revenir sur plus de 50 ans de recherches intellectuelles et politiques, de retrouver, selon sa formule, le chemin des enthousiasmes et des explorations de 1968 à nos jours. Pour cette nouvelle série de cours, conçue sur 2 ans, donc jusqu'en 2018, le grand chercheur du laboratoire démocratique mêle l'analyse des événements et des acteurs à son itinéraire personnel, lui-même étant témoin et acteur de cette histoire. En 1966, il est étudiant à HEC et il milite à l'Union des grandes écoles, liée à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Et comme beaucoup d'autres, il sera travaillé, sinon transformé par les événements de 68 et l'effervescence et les contradictions de ces années ouvertes et créatives. Au lieu de gagner l'entreprise, Pierre-Auzan Vallon deviendra un intellectuel organique, selon ses propres mots pour la CFDT, syndicat qui a su prendre le train des interrogations et des aspirations de ces années 1966-70, où l'esprit de mai 68 fait voir l'avenir en grand, à rebours des années d'hiver, comme seront qualifiées plus tard les années 1980. Ce matin, l'historien du politique revient sur le moment 68, un moment pas toujours bien évalué, nous expliquera-t-il, tout en dessinant en amont ce qui a pu nourrir ce temps d'extase de l'histoire, pour reprendre la formule d'Edgar Morin. Entre rencontres et lectures personnelles, Pierre-Auzan Vallon rappelle tout ce qui a pu faire socle. Ainsi, le franco-tunisien Albert Memmi, qui est sa lucarne et qui enseigne à HEC en ces années-là, et surtout la figure d'Henri Lefebvre, qui a joué, nous dit-il, un rôle central dans les mouvements de reformulation du nouvel idéal d'émancipation et qui résumera durablement l'esprit de mai. Le philosophe sociologue épousera les dissidences les plus significatives de son époque et de son milieu, de son que sais-je sur le marxisme, vrai best-seller de la collection, à son attention pionnière à la question urbaine. Pierre-Auzan Vallon voit en Lefebvre une sorte de Marcus français. Les formules et le style flamboyant des situationnistes contribuent aussi à fouetter les esprits, tandis que les cahiers de mai proposent de passionnants reportages en usine. À côté des grands slogans et des interprétations affûtées, telles celles de Michel de Certeau écrivant dans un article « En mai, je le cite, on avait pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789 », apparaissent des expressions nouvelles, néo-capitalisme et socialisme de marché. Pierre-Auzan Vallon marque son attachement à un de ses livres de jeunesse, « Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations », nous lisant les citations soulignées 3 fois en leur temps, dont celle-ci, « L'œuvre d'art à venir, c'est la construction d'une vie passionnante », ou encore celle-là, « Être riche se réduit aujourd'hui à posséder un grand nombre d'objets pauvres ». La contestation peut donc surgir de l'abondance. À côté de la libération du travail, il s'agit de subvertir le quotidien et au-delà de la théorie de l'exploitation, s'affirme celle de l'aliénation. Nous regagnons le Collège de France pour la suite du cours du 11 janvier dernier. Pierre-Rosan Vallon avait achevé sa première heure de cours sur le constat de l'absence de tentative de formulation d'une nouvelle culture de l'émancipation, alors que nous devons répondre aux enjeux de la troisième modernité.
Je ne pense pas qu'on puisse avoir eu 20 ans en 68 sans se sentir comptable, c'est-à-dire en partie responsable, de cet inaccomplissement. Inaccomplissement qui a pour moi, en référence à mon histoire et à mes idéaux, un nom, ce qu'il faut bien appeler, l'échec historique de la deuxième gauche. Échec qui n'a cessé de m'obséder. Le temps n'est pas encore venu d'une histoire qui pourrait proposer une lecture indiscutable et apaisée de ce demi-siècle pour répondre à ces questions. Mais j'ai pensé que retracer un itinéraire singulier apporterait une contribution utile à cette entreprise et que cela relevait même d'une forme minimale d'honnêteté intellectuelle et de morale politique. Car il n'y a rien de plus insupportable que les comportements qui se contentent de passer par pertes et profits leurs errements ou leurs abandons en les renvoyant à ce qui n'aurait été que de l'ordre d'une illusion passagère dont il n'y aurait en fin de compte rien à dire positivement. Ce retour sur mon cheminement, mes expériences et mon travail en même temps aussi une autre fonction à mes yeux, celle de chercher à donner sens aux sentiments diffus qui n'a cessé de m'habiter, d'écrire des livres qui venait trop tardivement. 40 ans après avoir publié L'âge de l'autogestion en 1976 et Pour une nouvelle culture politique en 1977, s'impose en effet maintenant à moi, avec une force d'évidence, que la vingtaine des volumes que j'ai publiés ensuite n'ont été que les documents préparatoires aux ouvrages sur la théorie de la démocratie ou la théorie de la justice qu'il aurait été souhaitable de publier immédiatement à leur suite, pour répondre aux urgences de l'époque, et qu'en fait, je ne publierai que très prochainement. Pourquoi donc ces 40 ans de retard ? C'est modestement une histoire intellectuelle et politique particulière qui va tenter de répondre à ces questions. Une histoire des années 1968-2018 que je vais retracer en suivant un itinéraire. Et c'est pour cela que je fais mien la formule qui est employée par Richard Hogarth dans son ouvrage très connu 33 Newport Street, dans lequel il écrit « Je m'efforce dans mon livre de partir d'une histoire personnelle et d'en tirer une signification qui dépasse le niveau de l'individu. » Il parlait aussi de façon savoureuse d'un travail d'orpailleur en terre de mémoire. Mais je n'en resterai pas à ce travail d'orpailleur en terre de mémoire. Je m'appuierai en effet aussi sur une vaste documentation constituée, outre mon propre travail avec les traces de sa réception, appuyée sur des notes personnelles, des documents parfois restés confidentiels, des courriers reçus et envoyés, des articles de presse et d'ouvrages consacrés aux lieux, aux personnes, aux organisations, aux moments qui sont évoqués dans cette recherche. Le but étant de rester au plus près des explorations qui ont été entreprises, comme des tâtonnements, des ruptures, des enthousiasmes, des découragements ou des lassitudes qui ont marqué mon travail et mes engagements. Pour restaurer aussi la façon dont les choses ont été immédiatement et sensiblement vécues, mais en même temps, en ne superposant en permanence les appréciations rétrospectives que cela suggère. D'où le plan du cours de cette année. Le plan du cours cette année va être séparé en deux grandes parties. Une première partie va reprendre, en quelque sorte, les enthousiasmes et les explorations de 1968 et des années 1970. Après un bref retour sur mai 68 que je ferai tout à l'heure, je consacrerai tout un ensemble de réflexions sur la constitution des idées de la deuxième gauche, autour de l'autogestion, de la nouvelle culture politique, de la critique du social-étatisme et de la social-démocratie en même temps. Et puis, je consacrerai un cours à toutes les explorations, en compagnie, là, nous les ferons, en compagnie de Castoriadis, d'Illich, de Gortz, de Michel de Certeau, qui ont été parmi ces personnes qui ont, dans cette période, été les grands marginaux séquents, pour employer cette formule de la sociologie, qui ont essayé de proposer des analyses novatrices. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de réfléchir aux raisons pour lesquelles les années 1980 ont été suivies et caractérisées par un piétinement en rupture avec ces enthousiasmes et ces explorations des années 70. Et là, nous suivrons un certain nombre de pistes. Avec, en compagnie de Michel Foucault, avec lequel j'ai beaucoup réfléchi et travaillé pendant cette période, nous allons voir pourquoi il y a eu une difficulté à traiter de la question du libéralisme, à régler, si je puis dire, la question du libéralisme. Et puis avoir ensuite les raisons proprement intellectuelles, puis les raisons politiques, puis les raisons presque physiologiques qui ont conduit à un engourdissement de la pensée et de l'action pendant les années 1980. Ces années qu'un auteur dont je parlerai bientôt a qualifié des années d'hiver qui auraient suivi les années d'enthousiasme. Comprendre notre situation aujourd'hui, c'est bien refaire cet itinéraire en voyant comment on passe une décennie d'enthousiasme à une décennie, pourrait-on dire, d'engourdissement. Et de voir ensuite comment se déploieront les choses sur les décennies suivantes. Ce deuxième cours est consacré à mai 68. J'avais lu Aden Arabi avec une certaine exaltation à l'entrée de ma vie étudiante. Un livre qui était un récit désenchanté des illusions qui menacent la jeunesse. Un regard vengeur sur les supposés voyages d'apprentissage par le dépaysement au fin fond d'archipel désirable, de montagnes magiques ou de bazar odorant, et sur la littérature qui en faisait commerce. Ce livre était une sorte de rappel à l'ordre. Je veux dire au poids de la glaise qui collait aux semelles et qui ralentissait les pas et la vie. Il s'adressait de son propre aveu à Aden Arabi aux adolescents fatigués. J'en étais pas encore arrivé à ce point, du moins le croyais-je, mais l'avertissement de Nizan m'avait sifflé aux oreilles. « Chaque homme est divisé entre les hommes qu'il peut être », avertissait-il. La question était alors de savoir celui que l'on ferait triompher en soi pour résister au sommeil et à la résignation. C'était un bon conseil de vie. On en recherche à cet âge-là. Dans sa préface, Sartre avait salué l'œuvre de désapprentissage en l'actualisant et en la prolongeant politiquement. En faisant le procès d'une gauche qui n'était plus alors, selon lui, en 1960, je le cite, « qu'un grand cadavre à la renverse où les vers se sont mis. Les uns trahissent, les autres s'encroûtent », avait-il résumé, en parlant au premier chef de la SFIO et du PCF. Cela ne dessinait qu'une fort étroite ligne de crête sur laquelle il fallait essayer de se frayer un chemin. Mai 68 va soudain élargir la perspective et accroître du même coup le champ des possibles et des pensables que Nizan avait décrit comme cernés de trop hauts murs. L'incipit fameux de l'ouvrage, « J'avais 20 ans, je ne laisserai dire à personne que c'est le plus large de la vie », m'était du même coup soudain apparu à côté de la plaque, complètement dépassé. Et à l'égard du Nathanaël des nourritures terrestres, un autre livre chéri de l'adolescence à ce moment-là, je pouvais désormais m'émanciper et jeter le livre. Comme pour beaucoup de ceux qui avaient eu 20 ans en 1968, l'horizon s'était soudain ouvert et il semblait devenu possible de prendre l'initiative et de voir sans crainte l'avenir en grand. Mais il faut le resituer à travers, comme la résultante, d'un certain nombre de reformulations de l'imaginaire progressiste. Cet imaginaire progressiste, il était désormais prêt à se reformuler dans des termes neufs. Et on peut en rappeler brièvement les figures précédentes pour en prendre la mesure. Il avait d'abord fait cause commune avec les valeurs de la résistance dans les années 1940. Combattre l'occupant nazi et rompre avec l'ancien asservissement du pays à l'étroitesse des calculs politiciens, autant qu'au pouvoir de l'argent, étaient des impératifs qui s'étaient alors naturellement superposés dans bien des têtes. L'esprit patriotique s'était inscrit dans une religion de l'intérêt général et avait viscéralement tenu en suspicion tout ce qui apparaissait lié à la poursuite d'intérêts particuliers. Et le Parti communiste avait même fait de cette convergence une des bases de sa légitimité et de son développement dans l'après-guerre. Et le progressisme de nos pères s'était ainsi exprimé dans des termes d'une évidente simplicité. Les membres de ma famille étaient du nombre de ceux qui étaient imprégnés de cette culture. Celui de nos frères aînés, ceux qui ont eu peu ou prou 20 ans dans les années 1960, cet imaginaire devra à ce moment surmonter les désenchantements issus de la trahison de ses précédents idéaux. Trahison d'un projet communiste brutalement invalidé par le choc de la sanglante répression de la rébellion hongroise en 1956. Trahison des idéaux socialistes aussi, avec la figure d'un Guy Mollet, ancien gardien de l'orthodoxie marxiste, métamorphosé en champion des manœuvres parlementaires et, plus grave encore, acteur décidé de l'intensification de la guerre d'Algérie. D'où l'émergence d'une nouvelle identité progressiste alors, structurée par l'impératif de décolonisation. Impératif inscrit dans l'histoire plus large d'une émancipation des peuples sujets de l'Empire français, que ce soit en Afrique, en Indochine ou en Afrique du Nord. Du milieu des années 50 au début des années 1960, c'est autour de cette question que se marqueront les ruptures essentielles, le cas de l'Algérie en constituant l'épicentre du fait de la spécificité de son statut départementalisé autant que du nombre des colons résidents et de la conscription également, renforcée de toute une classe d'âge, puisque la durée du service militaire, on le sait, a même été un temps fixé à 28 mois. Là encore, le progressisme s'était formulé dans des termes parfaitement définis, dessinant une claire ligne de partage entre les nostalgies de la droite et les aspirations d'une gauche qui se voulait nouvelle et authentique. Et c'est dans ce contexte que naîtra par exemple le PSA puis le PSU, résultante terminale d'une scission dans la SFIO. Vision que seule la politique gaulliste troublera. Cet impératif de décolonisation donnera même des éléments de langage essentiels au progressisme de la période, comme en témoignera par exemple le rapport emblématique « Décoloniser la province » de 1966, manifeste pour la décentralisation qui sera due à la plume de Michel Rocard. Donc l'impératif de décolonisation est aussi celui qui donnera un langage au progressisme de la période. Adossé à ce rejet d'abord du fascisme, puis du colonialisme, une philosophie du progrès et de la modernisation, aux contours assez vagues, avait ainsi servi de fondement à la culture politique de deux générations successives. Elle était greffée chez certains sur une référence à l'humanisme chrétien, chez d'autres sur un idéal républicain avancé, une vision gaulliste ou encore au credo marxiste de la lutte des classes. Mais ces distinctions étaient en partie in fine subalternes. Ceux qui allaient avoir 20 ans en 68 ont pour une part prolongé cette histoire. Nous avions beaucoup lu, par exemple, Frantz Fanon, qu'il s'agisse de Peau noire et masque blanc et surtout, bien sûr, des damnés de la terre. Les armes miraculeuses d'Aimé Césaire avaient aussi marqué les esprits. Et j'ai encore en tête ces mots du rebelle qui scandait « Mon nom offensé, mon prénom humilié, mon âge, l'âge de pierre ». Le portrait du colonisé d'Albert Memmi faisait aussi référence. Comme Fanon, il avait en effet été honoré d'une vibrante préface de Sartre qui le recommandait à l'attention. Il m'avait personnellement d'autant plus marqué que j'avais eu la chance de l'avoir comme professeur en première année d'HEC. Cette école avait en effet aménagé une petite lucarne hebdomadaire de respiration intellectuelle en petits groupes au milieu d'un océan d'enseignement assez assommant, je dois dire, et quelques esprits vifs, désireux d'arrondir leur fin de mois, avaient été recrutés dans ce cadre, comme Memmi. Et je m'étais lié de cette façon très proche avec lui, comme l'année suivante avec Kostas Papaioannou, qui sera une autre figure atypique et puissante, qui formait alors avec Kostas Axelos et Cornelius Castoradis l'un des pôles informels des Grecs de Paris, un des pôles les plus vivants d'une lecture à la fois critique et savante du marxisme, un milieu de la démarche althusserienne qui, dès le milieu des années 60, avait commencé à marquer les esprits. Mémy, par exemple, nous faisait lire les classiques de la sociologie. Il nous parlait aussi d'un livre qu'allait rassembler sous le titre de « L'homme dominé », rapprochant les figures du noir, du colonisé, du prolétaire et du juif, ce qui était un peu un point d'orgue de sa réflexion. Il était un des premiers à mettre côte à côte ces situations du prolétaire, du juif, de la femme et du domestique. Et tout en restant ancré, ce qui était l'essentiel chez ce Tunisien, dans une critique première de la colonisation, le livre avait du même coup élargi la perspective. Et publié en 1968, il sera, me semble-t-il, en phase avec l'aspiration de la période à une vision généralisée de l'émancipation. L'un des chapitres sera d'ailleurs ma grande fierté, puisqu'il était constitué par un entretien qu'avec quelques étudiants, j'avais réalisé avec lui et publié dans un journal étudiant. En 1966-67, le progressisme s'exprimait encore ainsi, de façon dominante, sur un mode décalqué des modèles passés, avec un changement de focale cependant. C'était l'anti-impérialisme qui en constituait dorénavant le ressort principal. C'est la guerre du Vietnam qui a en effet été l'événement constituant politiquement la génération du baby-boom, avec l'Amérique mise en accusation, que ce soit avec le mot d'ordre de paix au Vietnam ou celui de Vietnam vaincra des comités Vietnam de base. Si la mobilisation avait commencé à s'organiser dès 1965 avec les bombardements massifs des Américains, c'est en 1967 que la protestation culminera, beaucoup participant à ce moment, comme moi, à leur première manifestation de rue. Citant José Martí, une des grandes figures cubaines, qui prophétisait « c'est l'heure des brasiers, mais il ne faut voir que la lumière », Che Guevara avait alors appelé le monde à démultiplier ce combat estimé exemplaire. Créer deux, trois de nombreux Vietnam, voilà le mot d'ordre, avait-il lancé. Le Parti communiste cubain, adoptant cette perspective, avait alors envoyé des troupes en Angola pour soutenir la rébellion contre les Portugais. Et le Che lui-même, on le sait, quittera la Havane pour animer un foyer de guérilla en Bolivie. La guérilla, elle incarnait alors dans bien des têtes la forme d'époque de l'idéal révolutionnaire. Parlant de révolution dans la révolution, le livre portant ce titre est publié en mars 1967, un essai théorisant ce nouvel âge, Régis Debray estimait que c'était en Amérique latine que se jouerait la partie décisive qui déciderait de la fin de l'impérialisme américain. Le dernier empire du monde a commencé son agonie, disait-il dans ce livre, avant de prendre son sac pour rejoindre la lutte armée. Les guérilleros étaient les héros de l'heure, les héritiers des résistants, pour beaucoup. Sur le terrain, en Amérique latine, il y avait parmi eux des prêtres, des étudiants, des paysans, aussi bien que des fils, plus souvent que des filles d'ailleurs, de bonne famille, aspirant à une existence aiguisée par la certitude de faire l'histoire. Vu de France, ces mouvements étaient évidemment nimbés d'un certain romantisme, mais les admirer de loin, c'était aussi participer d'une certaine radicalité par procuration. L'anti-impérialisme de la période s'accordait plus largement à l'émergence d'une sensibilité tiers-mondiste qui faisait de l'exploitation des pays alors qualifiés de sous-développés par les centres industriels le ressort déterminant du capitalisme moderne. C'est la période pendant laquelle se multiplieront les ouvrages économiques consacrés à l'analyse de ce que l'on a appelé l'échange inégal. Elle fera ainsi un best-seller de la charge de Pierre Jallet, Le pillage du tiers-monde. Et une des premières formes que prendra mon militantisme étudiant avait été d'organiser des contre-cours et des ateliers de lecture sur ce thème. Aux satisfactions immédiates de l'activisme, dans lesquelles j'étais également engagé, je préférais déjà instinctivement la production des armes de la critique. Et l'idée que nous n'avions pas une intelligence suffisante de notre indignation et de nos critiques me paraissait dès cette période essentielle. Elle ne cessera de m'habiter. Le premier vers de l'International, « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim », résumait en quelques mots la vision traditionnelle de la révolution. Révolution comprise comme un combat d'hommes et de femmes décidés à briser leurs chaînes, celle d'une exploitation qui les réduisait à n'être qu'une simple force de travail, c'est-à-dire à les dévitaliser, à les déshumaniser radicalement. Le moment 1968 a en partie réactualisé cette image première, articulée sur une résurgence de la vision léniniste des avant-gardes. Mais il a aussi correspondu de façon plus durable et productrice de davantage d'effets à une redéfinition des ressorts même de la perspective révolutionnaire. Et cela d'une triple façon. La contestation surgissant d'abord de l'abondance et non plus de la misère comme précédemment. En second lieu, le but étant de subvertir la vie quotidienne et non plus simplement de libérer le travail. Et en troisième lieu, et c'en est un peu la conséquence, c'est une théorie de l'exploitation qui n'était plus considérée comme suffisante, mais elle était liée, voire même englobée, dans une théorie de l'aliénation. Et c'est de l'intérieur du marxisme que cette évolution a d'abord trouvé sa justification, comme si la complicité de l'auteur du Capital était alors impérativement requise pour la valider. Mais c'est effectivement un fait que les années 1960 avaient vu la première publication en français, la première publication de deux des textes les plus importants de Marx, « Économie, politique et philosophie » d'un côté, c'est-à-dire les manuscrits de 1844, publié pour la première fois en 1960, et puis de l'autre côté, les fondements de la critique de l'économie politique, les Grundrisse. Et dans ces deux textes fondateurs, c'est un Marx philosophe de l'aliénation, c'est un Marx philosophe de la société communiste comme retrouvant les idéaux de l'émancipation individuelle qui apparaissaient dans ces volumes. Marx qui voyait dans ce travail des Grundrisse la singularité des individus comme l'objectif réel du communisme. Et au-delà du matérialisme historique et de la théorie du prolétariat comme classe, c'était donc un Marx penseur radical de l'émancipation individuelle que l'on découvrait dans ses ouvrages. Ouvrages qui entraient ainsi en résonance avec les attentes du présent. C'est aussi la période où l'on découvrait en français des œuvres majeures du marxisme allemand et austro-hongrois, qui avait été rejeté par le communisme soviétique. Je pense par exemple aux ouvrages majeurs de Georges Lukács ou de Karl Korsch, qui ont été connus en français grâce au formidable travail d'édition qui était fait justement par Kostas Axelos dans la collection Arguments aux éditions de Minuit, et dont nous étions nombreux à l'époque à guetter les volumes. Dans Histoire et conscience de classe, par exemple, Lukács avait, l'ouvrage était des années 1920, développer une théorie de la réification en même temps qu'une théorie des conditions subjectives d'une action de transformation du monde. Et il défendait une conception du marxisme comme méthode critique ouverte à distance de toute notion d'orthodoxie. Dans Marxisme et philosophie, Karl Korsch, de son côté, avait été celui qui rompra ouvertement avec le léninisme en défendant un communisme libertaire et non dogmatique. Il est important de rappeler que l'un et l'autre avaient participé aux expériences conseillistes de 1919, donc à ce communisme, à ce socialisme des conseils qui a été si important dans l'Europe de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans la même collection d'Axelos que sera aussi publié, à la même époque, en 1967, « L'homme unidimensionnel » de Marcuse, qui était sous-titré « Essai sur l'idéologie industrielle avancée » et qui faisait le procès d'une société estimée répressive, qui rétrécissait les existences. Et on était bien loin, avec le marxisme que je qualifierais d'exploratoire de ces auteurs, des propositions énoncées à la même époque par Althusser, qui voulait, lui, constituer le marxisme en une science objective. Il était certes très lu à l'époque, car il y avait une excitation à cause de l'ambition de l'exercice, mais force était de constater qu'il n'était guère à forger une théorie renouvelée de l'émancipation. Althusser armera plutôt sur le mode d'un pouvoir d'intimidation ceux qui étaient en train de devenir de petits chefs de secte. C'est ce que lui reprochera notamment Jacques Rancière dans la leçon d'Althusser. Jacques Rancière qui avait pourtant écrit « Lire le Capital » avec Althusser en 1965. On pouvait d'ailleurs constater de façon plus large l'écart qu'il y a alors eu entre le succès intellectuel de diverses formes de structuralisme dans le champ des sciences humaines et les travaux du type de ceux que je viens de citer qui résonnaient directement avec les attentes politiques et les aspirations sociales du moment. Il y avait en quelque sorte une dualité du rapport aux publications de la période. Je n'en prends qu'un exemple. La pensée sauvage de Lévi-Strauss a marqué une date fondamentale dans l'histoire des sciences humaines, mais pourtant sans exprimer une génération politiquement ou socialement.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, mai 68.
Un sociologue moins capé que les grands noms qui viennent d'être évoqués a joué un rôle central dans le mouvement de reformulation du nouvel idéal d'émancipation qui résumera durablement l'esprit de mai. C'est Henri Lefebvre. Henri Lefebvre épousera les dissidences les plus significatives de son époque et de son milieu. Il s'éloignera du Parti communiste après la répression de la révolte hongroise de 1956. Il signera le manifeste des 121, les intellectuels justifiant l'insoumission au moment de la guerre d'Algérie, et il participera, il sera un des pionniers de la création de l'Université de Nanterre. Auteur d'une œuvre pléthorique, il se fera aux grandes dames du PCF, le champion d'un marxisme ouvert. Il réhabilitera notamment l'œuvre de Fourier, dont il éditera les œuvres complètes. Et tout le monde avait lu dans les années 60, moi je l'ai lu en 67, son « Que sais-je, le marxisme ». Ouvrage « Que sais-je, le marxisme », qui est d'ailleurs le best-seller absolu des puffs, avec 350 000 exemplaires. Ou encore « Ces problèmes actuels du marxisme », qui plaidait pour la construction d'une gauche alternative. Lefebvre jouera aussi un rôle majeur de passeur intellectuel avec ses revues « L'homme et la société » et « Espace et société », autant qu'avec les éditions Anthropos au catalogue impressionnant. Puisque ce sont les éditions Anthropos dont il avait été le créateur qui ont publié aussi bien les Grundrisse de Marx que les œuvres complètes de Saint-Simon et de Fourier, que toute l'œuvre alors très lue et très importante de Pierre Naville sur le travail. Mais Lefebvre contribuera surtout à l'élargissement de la compréhension du monde social, d'une double façon. En attachant d'abord une attention pionnière à la question urbaine, en montrant comment l'espace était en train de devenir une des variables les plus importantes de la mise en forme du social, en un temps où la pensée sociale raisonnait surtout en termes de rapports de production. Et son « Droit à la ville », publié au début de 1968, exercera pour cela une profonde influence. Mais son apport le plus durable a résidé dans son appréhension de la vie quotidienne. Vie quotidienne qui le disait colonisée par l'emprise de la marchandise, les mécanismes de dépersonnalisation des individus et le poids des conformismes. À côté de la bien connue critique de l'économie politique, il fallait donc développer pour lui une critique de la vie quotidienne. C'est donc ce titre de « Critique de la vie quotidienne » qu'il donnera à une série de 3 volumes, qu'il entreprendra d'ailleurs de façon très précoce, puisque le premier, même si ce n'est pas celui qui était le plus cité ensuite, sera édité dès 1951. Et dès ce volume, il dira qu'il s'agissait à ses yeux de donner sens au mot d'ordre de Rimbaud de réinventer la révolution. Et c'était là aussi le concept d'aliénation qui était central. Le but étant de lier son élaboration, disait-il, à un nouvel art de vivre, qui exprime, je le cite, une grandeur qui ne soit pas inhumaine et une forme de bonheur qui ne soit pas teintée de médiocrité. L'influence de ce travail sera considérable. Lefebvre, pourrait-on dire, a été le Marcus français. Et un Jean Baudrillard, dont le système des objets et la société de consommation furent publiés avec succès en 67 et 68, devra beaucoup à Lefebvre, qui était d'ailleurs son collègue à Nanterre. Mais la postérité retiendra surtout la profonde influence que Lefebvre exercera sur les situationnistes. Au tout début des années 1960, Guy Debord se rapprochera de lui, et lui-même était très attentif à leur production. Ces situationnistes, imprégnés de culture hegelienne, se nourriront pareillement de toute la littérature marxiste critique disponible de l'époque, de Lukács à Walter Benjamin. Eux aussi prôneront, dès la fin des années 1960, une révolution culturelle destinée à renverser, disait-il, le fétichisme de la marchandise. Et ils entendront combattre les mécanismes de l'asservissement par la consommation. En termes purement conceptuels, la littérature situationniste n'apparaît guère originale. Mais ils auront un style unique qui fera leur succès, s'exprimant volontiers par aphorisme, ce qui rendra fameux leur slogan en mai 68. Ils avaient une écriture brillante, à milieu des lourdeurs sociologiques et théoriques habituelles. Citant volontiers La Rochefoucauld ou le cardinal de Retz, il y avait chez eux un côté grand siècle. Lecteur des classiques de la stratégie, il mêlait des citations de Marx et de Clausewitz ou de Jomini d'une manière inédite. Il y avait aussi une esthétique situationniste, liée à la présence dans leur international de peintres comme Constant et Asgeir Jorn. Et leur revue, internationale situationniste, attirait le regard avec ses couvertures aux couleurs métallisées qui faisaient alors fureur à la Joie de lire ou à la Une, les deux librairies parisiennes où l'on se pressait alors. Le graphisme de la publication était lui aussi particulièrement soigné pour l'époque et original, avec les types de détournements qui étaient opérés. Une citation de Marx ou de Machiavel prenait plus de relief dans la bouche d'une pin-up dénidée et des textes de sociologie critique logés dans les bulles de comics américains paraissaient paradoxalement plus forts. Et des publicités détournées étaient souvent plus parlantes que de laborieux développements. Tout cela séduisait quand on était un étudiant immergé dans le monde compassé de l'université de l'époque. Un monde, je le rappelle, où nombre d'étudiants portaient encore la cravate. Ils avaient aussi un art consommé, ces situationnistes, de la mise en scène de leur machinalité, imprimant la moindre de leurs interventions, photographiant les graffitis qu'ils pouvaient tracer sur quelques murs d'importance, publiant les photos de leurs rencontres. Alors que leur international n'avait jamais compté plus de 40 membres, ils ont multiplié les volumes qui décrivaient leurs scissions, qui publiaient leurs correspondances, et ils ont déposé minutieusement à Amsterdam les archives constituées comme s'il s'était agi d'une puissante organisation. Et ils surent enfin emprunter aux surréalistes, qu'ils détestaient pourtant par ailleurs, un art des titres énigmatiques ou puissants. Je pense, par exemple, à deux films de Debord, un qui s'appelle « Les hurlements en faveur de Sade » et le second, titré en latin, qui a longtemps été projeté dans une salle de la rue Cujas, « In girumimus nocte et consumimo igni », ce qui veut dire « Nous tâtonnons dans le noir et le feu nous brûle ». C'est une citation détournée de Virgile. Film que presque personne ne voyait, mais dont tout le monde avait entendu parler. On dira avec les mots d'aujourd'hui qu'ils avaient le génie de la com. Tout ça faisait que les situationnistes attiraient et intriguaient. Mais ils jouèrent aussi un rôle direct majeur dans l'avant 68, avec deux textes qui marquèrent les esprits. De la misère en milieu étudiant d'abord. Une brochure publiée en 1966 par une section de l'UNEF de Strasbourg, où l'un des leurs était actif. Dans cette brochure, on stigmatisait l'aliénation du monde étudiant, on y dénonçait une société moderne, spectaculaire et marchande, en invitant les lecteurs à vouloir un changement de la vie et en soulignant que ce qui doit surprendre, ce n'est pas que la jeunesse soit révoltée, mais que les adultes soient résignés. Et la Société du spectacle de Guy Debord, publiée quelques mois plus tard, au début de 1967, fut aussi remarquée. Mais Debord ne devint un individu célébré que plus tard. En mars 1967, en fait, plus que Debord, c'est le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, dû à la plume de Raoul Van Eghem, qui connut un immense succès. Et sa publication dans la collection blanche chez Gallimard était à elle seule une forme de consécration. Les échanges de correspondance entre Gallimard et Van Eghem sont d'ailleurs assez intéressants, car il insultait de plus en plus l'éditeur qui avait de plus en plus envie de le publier. Mais c'est surtout le ton et le style de Van Eghem qui en feront le livre de chevet d'une génération, comme en témoigneront les centaines de milliers d'exemplaires vendus. C'était, dans les essais, le plus grand succès de l'avant 68. Et j'ai toujours gardé l'exemplaire que j'avais alors acheté pour ce qu'il avait suscité chez moi d'adhésion avec ce mélange de posture rimbaldienne et de puissance d'expression liée à un style impérieux. Et je peux citer un choix des passages que j'avais soulignés de trois traits et d'une forte croix dans la marge, parce qu'ils montrent bien ce que pouvait représenter ce livre pour un lecteur lambda de 19 ans. Je le cite. « La lutte du subjectif et de ce qui le corrompt élargit désormais les limites de la vieille lutte des classes et la renouvelle et l'aiguise. Le parti pris de la vie est un parti pris politique. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. » Quelques pages plus tard, on pouvait lire « Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subvertif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont un cadavre dans la bouche. » Et encore, « L'économie de consommation absorbant l'économie de production, l'exploitation de la force de travail est englobée par l'exploitation de la créativité quotidienne. Être riche, en concluait-il, se réduit aujourd'hui à posséder un grand nombre d'objets pauvres. » Et une dernière citation, « L'œuvre d'art à venir, c'est la construction d'une vie passionnante. » Ces idées, et parfois même ces formules, seront au cœur de l'esprit de Mai, comme vision enrichie d'une émancipation qui ne séparait pas développement de la singularité individuelle et réinvention du commun. Et c'est en ce sens qu'on peut parler au pluriel des révolutions de Mai et que de nombreux ouvrages ont eu comme titre un des sens de ce terme de révolution. Mais ce terme, s'il est employé dans différents sens, ça peut être dans trois directions. D'abord, la révolution, ça peut être un moment décisif, celui d'une accélération de l'histoire, celui d'une simplification de la réalité, et alors celui d'une lucidité plus grande des esprits, du surgissement aussi d'un nouveau langage, comme de la perception d'un élargissement du champ des pensables et des possibles. C'est la révolution événement, cela. Révolution imprévisible, aux acteurs multiples et disséminés, qui donne soudain corps à des espérances enfouies, qui embrasent une plaine dont on prend soudain conscience de la sécheresse. Mais ce terme de révolution renvoie aussi à l'idée, à la pratique d'une action organisée de rupture, d'une subversion calculée des institutions, d'une épreuve de force, d'une saisie physique des lieux de pouvoir. C'est la révolution stratégie. Celle-ci, avec ses chefs et ses avant-gardes, qui élaborent des plans, précipitent le cours des choses et savent entraîner les foules. Cette révolution, elle a un goût d'insurrection, un goût de fer et de poudre. En troisième lieu, le terme de révolution qualifie le fait d'une évolution aussi diffuse qu'irrésistible, qui bouleverse en profondeur les rapports sociaux et les modes d'organisation comme les représentations du monde. C'est ce qu'on peut appeler la révolution processus, dont la consistance, elle, ne devient que progressivement lisible. Mais 68, pourrait-on dire, a superposé ces trois dimensions. Il y a d'abord eu la révolution événement, et les premiers interprètes à chaud en ont bien exprimé le caractère. L'un des plus sensibles d'entre eux, Edgar Morin, qui a publié dès la mi-mai une série d'articles dans Le Monde qui ont été repris dans un ouvrage publié avec Claude Lefort et Castoriadis qui s'appellera La Brèche. Edgar Morin, dans ses premiers articles à chaud, évoquera ce qu'il appellera un événement sphinx, énorme et insignifiant à la fois. Et il parlera, dans une formule qui restera, d'une extase de l'histoire, pour en traduire la force évidente et insaisissable simultanément. C'est l'événement dont on ne saurait masquer la part de mystère et d'inattendu qu'il recèle. Part d'événement irréductible aux déterminismes sociaux et aux séries causales, insisteront Deleuze et Guattari. Événement insaisissable, certes, mais avec un acteur, lui, bien identifié. La jeunesse, et d'abord la jeunesse étudiante. C'est ce qui a tout déclenché. Edgar Morin parlera ainsi de Mai, en tout cas du premier temps de Mai, comme dira-t-il, une sorte de 1789 socio-juvénile. qui accomplit l'irruption de la jeunesse comme force politique ou sociale et de quelque chose qu'apporte cette jeunesse. Et le lien avec 1789 sera d'ailleurs aussi fait par un autre interprète affûté, Michel de Certeau, qui, dans un article également de la période, écrira qu'en mai, on avait pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789. Et cette révolution-événement, d'abord amplifiée par les mouvements de grève à partir de la fin mai, se brisera in fine sur le moment électoral du mois de juin, qui consolidera paradoxalement avec éclat un pouvoir qui avait pourtant un moment paru près de vaciller. Je rappelle là qu'on peut faire référence au voyage de Gaulle à Baden-Baden et les journées de la fin mai. Mais les deux autres figures de la Révolution prendront ensuite le relais. Si la Révolution stratégie avait pu être un moment fantasmé car quelques petits groupes, c'est en fait seulement, j'y reviendrai, dans l'après-mai qu'elle prendra force et forme. Quant à la Révolution processus, greffée sur l'extension à toute la société de thèmes issus du mouvement étudiant, elle montrera rapidement la profondeur du sillon qu'elle creusait. Le mai libertaire, celui que l'on considère rétrospectivement comme le plus caractéristique, a pourtant bien voisiné avec un mai léniniste et maoïste. Les Mao et les trotskistes avaient commencé à s'implanter quelques années plus tôt dans la jeunesse, sur fond d'une crise de l'Union des étudiants communistes, association qui était de plus en plus réticente à se plier à la discipline et à la rigidité idéologique du parti au milieu des années 1960, et qui d'abord avait pris modèle sur le Parti communiste italien, qui sous la férule de Togliatti était devenu plus ouvert et plus libéral. Du coup, ces premiers dissidents communistes seront appelés en milieu étudiant les Italiens. Mais alors que certains s'étaient retournés vers l'oncle Léon, d'autres se laissaient attirer par les sirènes de la révolution culturelle, la Chine, d'un pays que l'éloignement et le caractère exotique faisaient regarder avec les yeux doux de la propagande. Mais ouvrait ainsi un nouvel horizon à ces ruptures et a donné paradoxalement une nouvelle actualité à la vieille culture bolchévique. C'était aussi une autre façon de comprendre le mot d'ordre de révolution dans la révolution qui allait s'imposer. Au milieu des années 1960, l'idéal révolutionnaire était certes déjà vibrant et paraissait même partout imposer sa marque. Qu'il s'agisse de la révolution culturelle chinoise, des guérillas en Amérique latine ou des multiples luttes sociales en Afrique comme en Asie, le monde post-colonial semblait vivre à l'heure des grands et décisifs affrontements. On voyait partout des régimes vaciller et même s'effondrer. Partout, mais pas en Europe ou aux États-Unis. Ces deux continents continuaient à invalider une des théories centrales de Marx, selon laquelle c'était au cœur du capitalisme développé qu'auraient d'abord lieu les grandes ruptures. C'est au contraire, on le sait, à ces marges de ce milieu développé, en Russie et en Chine, que s'était ouverte une première ère des révolutions. Et chacun savait aussi que si l'Union soviétique armait bien des combattants du tiers-monde, elle avait fait le choix stratégique d'éviter de voir sa position menacée par des mouvements sociaux déstabilisateurs en Europe, soucieuse qu'elle était de maintenir un statu quo rassurant à sa porte, surtout dans le cas de la France, qui avait alors rompu, je le rappelle, avec l'OTAN. Oui à des fronts populaires issus d'élections, mais non à des prises de pouvoir, à des tentatives de prise de pouvoir insurrectionnelles, disait Moscou. Et la consigne imposée au Parti communiste européen était claire à cet égard. C'est donc par prétérition que l'on était alors révolutionnaire dans la France des années 60, en soutenant politiquement les révolutions d'ailleurs, ne rejoignant que dans des très rares cas des combattants sur le terrain. Mais va changer cela. Pas immédiatement, cependant. Tant les principales organisations gauchistes, maoïstes ou trotskistes, se méfièrent d'abord d'un mouvement étudiant jugé petit bourgeois et corporatiste. C'est un peu plus tard la grève ouvrière qui leva ses réticences premières en introduisant l'idée d'un nouveau cours possible de l'histoire. Même si le raz-de-marée électoral de la fin juin marquera un brutal temps d'arrêt, l'âge des insurrections victorieuses semblait soudain pour certains pouvoir revenir d'actualité. Cela fut souligné à l'envi. Je cite les Cahiers de mai, une des publications les plus intéressantes de la période, puisqu'elle était fondée sur des reportages en usine. On pouvait lire dans un des premiers numéros « Une époque prodigieuse s'annonce en France. Pour la première fois, nous savons aujourd'hui qu'une révolution socialiste dans un pays à un haut niveau industriel, c'est-à-dire dans les conditions mêmes espérées par Marx, se prépare enfin. Une révolution qui transformera donc le visage du socialisme dans le monde. » Du côté de la jeunesse communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, l'ouvrage qui fera le bilan des événements, dû notamment à sa plume et à celle d'Henri Weber, portera pour titre « Mai 68, une répétition générale ». Connaissant sur le bout des doigts l'histoire de la révolution russe, les militants trotskistes avaient ainsi vu dans mai l'équivalent des grèves et des soulèvements russes de 1905, qui avaient précédé la révolution d'octobre 17. Le ton est encore plus radical du côté maoïste. En publiant une analyse manifeste des événements, qui avait pour titre simplement « Vers la guerre civile », Alain Gesmard et Serge Joly avaient abruptement estimé, je les cite, « L'horizon 1970 ou 1972 de la France, c'est la Révolution. » Aujourd'hui, avait-il poursuivi, le point de non-retour est atteint. La bourgeoisie est prise au piège de l'affrontement, car mai se prolétarise et prend une identité révolutionnaire. Cela mène, poursuivait-il, inéluctablement à l'affrontement direct, physique, avec le mouvement révolutionnaire de mars. Mais en France, concluait-il, c'est le début d'une lutte de classe prolongée. Voici venus les premiers jours de la guerre populaire contre les expropriateurs, les premiers jours de la guerre civile. Ces credos révolutionnaires reposaient, quelle que soit leur obédience, sur la vision marxiste traditionnelle du dépassement du capitalisme. Celle-ci était liée chez Marx à une théorie de l'effondrement inévitable de ce dernier du fait des contradictions qui le minaient. C'est la vision catastrophiste de l'histoire que partageront globalement les socialistes de la fin du XIXe siècle. Il suffisait donc à leurs yeux d'attendre, en la préparant et en la précipitant éventuellement, une inéluctable révolution. Cette appréhension du capitalisme ne pouvait plus être soutenue dans les années 1960. Le capitalisme avait en effet fait la preuve d'une indéniable capacité à surmonter ces contradictions. Et on commençait d'ailleurs, dans ces années 60, à parler de néo-capitalisme. Un des essais importants de la période d'André Gortz, en 1964, avait comme titre « Stratégie ouvrière et néo-capitalisme ». Et l'avènement documenté d'une nouvelle classe ouvrière, l'expression et de la période, tendait parallèlement à invalider la version marxiste première d'une révolution greffée sur une paupérisation absolue. Puisque cette nouvelle classe ouvrière que définissaient les sociologues de l'époque comme Serge Mallet, comme Alain Touraine, comme Jean-Daniel Reynaud, était justement caractérisée par l'avènement d'une population de techniciens ou d'ouvriers hautement qualifiés. Et cette vision, ce dépassement de la vision marxiste était d'autant plus fort que la pertinence du modèle collectiviste classique commençait à être fortement discutée. Je rappelle que c'est à cette période que, en Hongrie, on voit apparaître l'expression de socialisme de marché et qu'en URSS même, il y a de nouveaux débats sur la planification d'un point de vue théorique. Ces éléments n'excluaient certes pas la perspective et l'éventuelle nécessité de changements économiques, sociaux ou politiques radicaux. Mais le terme même de révolution ne pouvait plus avoir son sens précédent. D'où la nécessité d'une autre analyse économique et politique pour refonder la perspective originelle et guider l'action révolutionnaire au-delà même de l'exaltation d'un volontarisme léninisme. Comment ? C'est ce à quoi s'emploieront les maoïstes de façon particulièrement explicite. Ils considéreront que le problème de l'heure n'était plus seulement l'exploitation du prolétariat, mais celui d'un accroissement spectaculaire de la répression et d'une marche vers un nouveau fascisme. Un numéro spécial des temps modernes, en mai 1972, sera consacré à ce thème de la fascisation de la France. Et André Glucksmann, celui qui fera ce numéro, appellera à reconnaître comme essentielle dans l'analyse la fascisation du régime bourgeois en France. Et la perspective révolutionnaire s'était ainsi liée au maniement d'une rhétorique chez eux héritée de la résistance à l'occupant nazi. La cause du peuple, qui avait succédé en 1970 à la gauche prolétarienne, inscrira ainsi son action dans le mot d'ordre de la nouvelle résistance populaire. Ils se lieront symboliquement pour cela à quelques grands noms de la résistance. Et les maoïstes se doteront en conséquence d'une structure militaire clandestine qui portait ce nom de nouvelle résistance populaire. Les maoïstes français n'étaient d'ailleurs pas en Europe les seuls à faire cette analyse. En Italie, les Brigades Rouges et d'autres mouvements développeront aussi la thèse d'un fascisme qui vient. Dans un contexte, il est vrai, différent, puisque des mouvements d'extrême droite joueront en Italie la carte du désordre en perpétrant des attentats dans l'espoir de faire advenir un régime policier. Mais en Allemagne aussi, on verra ce thème absolument central dans la fraction armée rouge, outre le fait qu'un nombre non négligeable de ces militants avaient eu des parents qui étaient des nazis. Mais le propre de l'Italie ou de l'Allemagne, c'est que les actions terroristes s'étendront sur toutes les années 70 et le tournant des années 1980, alors que la nouvelle résistance populaire française, elle, ne basculera pas dans le terrorisme et annoncera sa dissolution en 1973, reconnaissant que les événements qui s'étaient passés autour du conflit de Lippe avaient joué en quelque sorte un révélateur pour eux, que la société recelait des possibilités de changement qui n'appelaient pas simplement les formes précédentes qu'ils avaient vues de victoire dans le cadre d'une fascisation du régime. Il faut se rendre compte qu'une grande partie de la littérature consacrée à mai 68 a été une littérature consacrée à des aspects très limités de 1968 et a été en partie pour cette période ce que la vieille histoire bataille et l'attention privilégiée aux grands personnages avaient été à l'histoire tout court. L'ouvrage le plus emblématique dans cet ordre a été la somme d'Hervé Hamon et de Patrick Rothman, Génération. On voit dans cet ouvrage défiler les grandes figures du maoïsme et du trotskisme de l'époque, devenus pour la plupart, au moment où le livre est publié, des barons de l'intelligentsia, du journalisme ou de la politique, en même temps que l'ENS de la rue d'Ulm et l'Université de Nanterre paraissaient les lieux majeurs et presque uniques de toute l'activité étudiante. La publication a été caricatural, mais caractéristique. Plus largement d'ailleurs, c'est le mai 1968, des usines et des bureaux, la plus longue grève depuis le Front populaire tout de même, qui n'était que marginalement racontée. Le mai 68, qui a marqué en profondeur le pays, a ainsi été largement enseveli sous un récit enchanté et globalement marginal au regard d'une histoire considérée dans la longue durée. Tant pour qui se regarde les événements, proprement dit, que pour la dimension de révolution processus qui leur a fait suite.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui mai 68. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Il a publié « L'âge de l'autogestion au seuil » en 1976, puis l'année suivante « Pour une nouvelle culture politique ». Je rappelle aussi son dernier ouvrage, disponible désormais dans la collection « Point seuil » depuis janvier, « Le bon gouvernement ». Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, Pierre Auzan-Vallon nous présentera l'autogestion et les réflexions autour de la société civile. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture. Thank you.